Michael Olivier, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve ici dans le cadre du festival Les Toiles Filantes. Et d'ailleurs, vous présidez le jury cette année. Tout d'abord, première question, est-ce que vous êtes déjà venu à ce festival et c'est quoi votre lien avec Les Toiles Filantes ?
Alors, c'est la première fois que je viens à ce festival. Le lien, c'est que j'ai écrit un roman il y a quelques années qui a été adapté pour un film d'animation qui s'appelle La vie en gros, comme le roman. Film d'animation pour la jeunesse qui est ici dans ce festival. Et donc, comme j'écris depuis 25 ans pour les jeunes, je pense que les organisateurs du festival ont estimé que, voilà, que je pouvais avoir un regard intéressant, en tout cas intéressé, ça c'est sûr, sur tous les films de la compétition.
Vous écrivez donc pour les jeunes, pour les adolescents, mais pas que. Vous avez aussi écrit des livres pour les adultes, mais plutôt quand même pour les adolescents et les jeunes. Pourquoi vous avez cette envie d'écrire plutôt pour ce public-là, enfin pour ces lecteurs-là?
Parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup faire ça, en fait. Que ça, pour être très honnête avec vous, je ne me suis jamais dit, avant de commencer à écrire, je vais écrire pour les jeunes. Je voulais écrire des films, des romans. Mais j'ai fait une belle rencontre avec Thierry Magnier, éditeur pour la jeunesse, qui venait de monter sa maison de production quand on s'est rencontrés. Il avait publié quelques livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une approche exigeante de la littérature jeunesse, pas infantilisante du tout, et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait un premier roman chez lui. Puis après, j'ai publié La vie en gros, qui a été un gros succès, qui a eu beaucoup de prix, qui a été adapté sur M6, puis aujourd'hui en film au cinéma. Donc voilà, j'étais lancé dans ce domaine-là, mais surtout, j'ai découvert que j'aimais faire ça. J'aimais, moi, me mettre dans la peau de héros jeunes, enfants, et essayer de regarder à travers mes livres le monde tel qu'on le voit quand on a cet âge-là. J'ai trouvé ça très enrichissant pour moi, en travaillant sur mes propres souvenirs. Et j'ai découvert un domaine littéraire qui me rend très heureux depuis plus de 20 ans.
La vie en gros, ce roman, il est paru en 2001, assez tôt dans votre carrière d'écrivain au final, et vous avez rencontré un gros succès, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement et comment vous expliquez ce succès plus de 20 ans plus tard ?
Alors, on ne s'attend jamais au succès. On l'espère parce que, en tout cas moi, j'écris pour le partage d'une histoire, le partage des émotions. Voilà, j'écris pas pour moi. Si on prouvait scientifiquement que je n'ai aucun lecteur, je crois que j'arrêterais d'écrire, je ferais d'autres choses. J'ai besoin du regard des autres pour que mon livre prenne vraiment vie, donc des lecteurs. Donc La vie en gros, ça a été une heureuse surprise. C'est vraiment le roman de ma vie. À double sens, c'est-à-dire que c'est inspiré de ma vie quand j'avais 15 ans, mais c'est le roman qui a changé ma vie d'écrivain et qui m'accompagne depuis toutes ces années, qui m'amène beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, dont ce film qui vient de sortir en France. Comment expliquer le succès ? C'est difficile. Je crois que le jeune lecteur, qui n'est pas toujours un lecteur acquis à la littérature, c'est-à-dire que quand on écrit pour les adultes, on écrit pour des gens qui vont vers la littérature, qui aiment la littérature. Une grande majorité des jeunes lecteurs se retrouvent avec le livre dans la main sans forcément l'avoir choisi parce qu'un prof leur donne, parce que des parents leur donnent. Et il faut donc aller chercher l'engouement du lecteur. Je crois que c'est la sincérité le meilleur facteur. Moi, je suis sûr de ça. J'ai rencontré beaucoup de jeunes lecteurs et je vois ce qui les touche. Ils ont besoin d'une histoire, de personnages, mais ils ont besoin que ça sonne juste, que ça parle du monde tel qu'il est, en tout cas dans le type de roman. Il y a aussi de la fantasy, de la science-fiction. Mais je crois que de tous mes livres, j'en écris beaucoup, tous ceux qui ont le mieux marché, je peux avec le recul dire que c'est ceux qui sont le plus sincères, c'est-à-dire qui présentent les choses telles qu'elles sont, telles que moi je les ai comprises, telles que je les ai ressenties. Donc voilà, je crois que La vie en gros sonne juste au sens où j'ai été très sincère en l'écrivant. Voilà, c'est une analyse que je fais après coup, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit valide, mais bon.
Si on voulait pitcher le livre et le film en 2 minutes, on dirait quoi ?
On dirait que c'est une année scolaire d'un adolescent qui est gourmand, un rapport à la nourriture excessif mais généreux. Il veut cuisiner, il cuisine pour les autres. Dans le roman, il veut ouvrir un restaurant plus tard. Mais soudain, le regard des autres sur lui va faire de son surpoids un problème alors qu'il ne l'était pas avant. Et notamment le fait de tomber amoureux d'une jeune femme. C'est son premier amour. Il veut plaire à Claire et il se rend compte qu'il ne se plaît pas à lui-même. Et toute la société lui renvoie que son surpoids est un problème. Les médecins lui parlent d'indice de masse corporelle, ses parents s'inquiètent. Et soudain, ce qui était une caractéristique, mais plutôt joyeuse, devient un souci. Et Benjamin va essayer de maigrir pour séduire Claire. Il ne va pas réussir, mais peut-être que dans ce parcours-là, il va réussir à s'accepter tel qu'il est, à s'aimer tel qu'il est et peut-être à se faire aimer pour qui il est et non pas pour son apparence.
Et à votre avis, cette histoire, est-ce que si La Vie en Gros était sortie par exemple en 2025, est-ce que vous pensez que ça aurait eu un tel écho auprès de ces jeunes lecteurs adolescents ?
Je l'espère, je le pense. De toute façon, ce livre continue à se vendre très très bien aujourd'hui. Et alors, c'est amusant parce que j'ai relu récemment des bouts parce qu'on m'a demandé de faire des lectures à voix haute. Et j'ai vu que c'était daté parce qu'il y a des francs dedans. Je me suis dit, mince, je suis vraiment un vieil auteur. Mais à part ça...
2001, c'était la bascule.
C'était la bascule, ouais. Voilà. J'ai fait juste avant la bascule. Ouais. Parce que moi, il est sorti en 2001, mais je l'ai écrit un petit peu avant. À part ces choses-là, le reste n'a pas vieilli du tout parce que le sentiment d'un premier amour, la moquerie des autres, le regard des autres, la difficulté d'être différent quand on est adolescent, que ce soit quand moi j'avais 15 ans ou quand j'ai écrit le livre, j'avais 31 ans, ou aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ont évolué. Dans le film, Christina a rajouté par exemple le harcèlement. Moi, je n'ai pas été harcelé quand j'étais jeune. On se moquait de moi, mais ce n'était pas du harcèlement comme il peut y avoir aujourd'hui. Et les jeunes me parlent de ça aujourd'hui. C'est amusant parce que je fais beaucoup de rencontres scolaires autour de ce livre et du film. Et donc du livre à nouveau, comme il y a 23-24 ans. Et les questions sont toutes les mêmes, sauf des questions sur le harcèlement qui apparaissent aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a 23 ans. Mais vraiment, je pense que oui, le livre aurait le même écho aujourd'hui, surtout que l'obésité est devenue un vrai phénomène de société, ce qui était moins le cas il y a 23 ans et encore moins le cas quand j'étais jeune.
Donc il y a cette nouvelle adaptation. Comme vous le disiez, il y avait déjà eu une première adaptation. Là, cette fois-ci, c'est un film d'animation en volume, image par image. Le film est réalisé par Christina Dufkova. Comment ça s'est passé, cette adaptation-là, avec vous ? Quelle est votre part de travail dans cette adaptation-là ? Et comment ça s'est passé ?
Alors, mon roman a été traduit dans beaucoup de pays, et notamment en République tchèque. Et donc, j'ai été invité par mon éditrice là-bas à faire une tournée promotionnelle. Il y avait un salon de livres et il y avait une troupe de théâtre qui jouait La Vie en Gros au théâtre que j'ai rencontré à ce moment-là. Et l'éditrice m'a dit, j'ai été contactée il y a 15 jours par une réalisatrice qui a lu le roman et qui envisage d'en faire un film. Elle aimerait vous rencontrer. Donc, on s'est rencontrés. C'était il y a 14 ans, donc ça fait quand même longtemps. Et tout ce que m'a dit Christina m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'elle avait sa vision à elle du livre, mais tout ce qui comptait pour elle comptait pour moi aussi. Et dès le départ, il a été question de faire un film d'animation tchèque, en langue tchèque. Et il n'a jamais été question que je travaille dessus. Moi, je suis scénariste, hein, j'ai écrit beaucoup de films pour la télévision, j'ai adapté mes romans souvent, mais là, ce n'était pas le propos. Parce qu'il fallait, c'était évident, et je l'ai compris tout de suite, que Christina prenne mon histoire et la fasse sienne, qu'elle l'emmène dans son univers, un univers très particulier, à l'image, à la couleur, au son. C'est vraiment tout un monde qu'elle crée. Et il fallait qu'elle le fasse en toute liberté. Donc moi, je n'ai pas travaillé sur le film. Par contre, j'ai reçu régulièrement, pendant toutes ces années, des dessins, des croquis, des petits bouts de films, le synopsis, le scénario. Ils m'ont tout envoyé très gentiment et on est vraiment devenus complices entre-temps. Mais quand, il y a un an, ils m'ont montré le film, je le découvrais quand même vraiment et je l'ai beaucoup aimé. Avec toutes ces différences, peut-être grâce à ces différences, parce que moi, je crois qu'une adaptation n'a pas besoin d'être fidèle. Elle a besoin d'être fidèle à l'émotion qu'on a ressentie en lisant le livre. Mais Christina a vraiment emporté mon histoire dans son univers et je trouve que ça a très réussi et moi, je m'y retrouve totalement.
Et est-ce que c'est difficile ou peut-être facile de céder cette histoire qu'on a écrite et à quelqu'un d'autre pour qu'il en fasse une autre œuvre à son tour ?
Moi, ça ne me pose vraiment aucun problème. C'est aussi mon travail. Je suis scénariste, j'ai adapté des romans, des autres, parfois les miens. Donc, le roman existe. Quel que soit le film qui va sortir, le roman sera toujours là. Si le film était une catastrophe, le roman sera toujours là. Et mon roman, tel que je l'aime, tel que je l'ai fait au mieux que je pouvais le faire à l'époque. Il se trouve que j'aime beaucoup ce film et c'est un plaisir pour moi. Mais voilà, je crois que je trouve ça, moi, au contraire, vraiment riche d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, d'une artiste comme Christina sur mon histoire, de voir ce qu'elle en fait. Moi, je trouve ça passionnant, très enrichissant. Donc, pour moi, ça a été très facile. Le jour où elle m'a dit « j'ai envie de faire de votre histoire un film », j'ai pris ça comme une très bonne nouvelle et un cadeau.
Alors, le style graphique est très particulier sur cette adaptation en film d'animation. C'est assez... on n'a jamais vu ça.
Oui, c'est vrai.
Et au-delà de ce style graphique... qui est propre à chacun, parce que c'est vrai que quand on lit un livre, on a des images mentales qui se créent, et on imagine les personnages d'une certaine manière, et chaque lecteur va imaginer les personnages à sa façon. Donc, elle, c'est sa façon à elle de traduire ses personnages dans le film d'animation. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a surpris dans cette adaptation, qui n'était peut-être pas présent dans votre livre, et où vous dites, ah ouais, c'est des choix, c'est ça qu'il fallait faire. Effectivement, elle a eu raison.
Alors pour ce qui est de la direction artistique, des visages, c'est effectivement très surprenant la première fois qu'on voit le film, en tout cas les 10 premières minutes.
Ouais, on s'habitue.
On s'habitue très vite et ça devient le monde. Et du coup, l'histoire, Et les émotions sont exactement les mêmes que si c'était des personnages qui nous ressemblent, alors qu'ils ne nous ressemblent pas, qui sont assez laids au départ. Mais c'est amusant parce que moi, j'ai vu le film plusieurs fois, et notamment le personnage de Claire, qui est la fille dont Benjamin, le héros, tombe amoureux. Moi, quand j'avais 15 ans, je suis tombé amoureux d'une fille qui s'appelait Claire. J'ai mis ça dans mon roman, donc j'ai regardé ça avec attention. Maintenant, Claire, je la trouve très jolie. Je suis pas loin de retomber amoureux d'elle. Pourtant, elle a la tête un peu de travers, comme tous les personnages. Donc, j'aime beaucoup cette idée de cet univers qu'elle a créé. Mais c'est comme, dans une projection, il y a quelques jours, une dame disait, ils sont quand même très laids, ça m'a un peu gêné, une dame un peu âgée. Et je répondais, oui, mais quand vous regardez un Picasso, vous êtes touché. Ils ne sont pas beaux, on ne peut pas dire, la tête est de travers, voilà, c'est une proposition artistique. Donc on rentre dans une proposition artistique, et à partir du moment où on l'accepte, tout fonctionne. Après, ce qui a amené Christina dans cette histoire, elle a amené beaucoup de musique. Alors évidemment, moi je ne pouvais pas faire ça dans mon roman, mais l'idée notamment que Benjamin joue dans un groupe, chante, qu'il ait ce courage, malgré sa différence, malgré son surpoids, d'aller sur scène, ce que moi j'aurais jamais osé faire à son âge avec les kilos que j'avais en trop.
Mais même sans les kilos.
Même sans les kilos, vous avez raison. Je trouve ça très, très malin parce qu'elle a fait de Benjamin ce qu'il est dans mon roman, mais peut-être plus dans ce film. Il a du courage, il répond à ceux qui le harcèlent, même il se bagarre. Il va sur scène et à la fin, la chanson finale, elle revendique sa personnalité, son surpoids, sa gourmandise, et je trouve que c'est tout à fait malin, très en lien avec ce que moi je voulais raconter dans l'histoire, et voilà, ça c'est tout à fait un apport qu'elle a fait, elle et son scénariste, et je trouve ça vraiment brillant.
Est-ce que quand vous avez écrit La vie en gros, vous aviez une volonté d'alerter sur le problème de l'obésité, du surpoids, ou pas forcément, c'était juste un moment de vie, et c'est ce que vous viviez à l'époque, et ça s'est traduit comme ça?
Oui, il n'y avait pas de volonté d'alerter sur l'obésité. Il y avait une volonté littéraire de raconter une histoire et d'être le plus juste possible. Mais je n'ai pas choisi non plus ce sujet-là par hasard. Ce n'était pas pour parler de l'obésité, mais c'était pour parler, on va dire, tolérance, de la différence, de la richesse d'être tous différents. J'ai choisi l'obésité parce que je savais que je pouvais en faire une histoire juste et intime. Parce que j'avais plein de souvenirs, des choses toutes bêtes, mais quand je décris dans mon livre, et c'est dans le film de Christina, la difficulté quand on a 15 ans d'aller acheter un pantalon dans un magasin, quand la vendeuse est très mignonne et qu'il n'y a pas sa taille, c'est une petite chose du quotidien, mais qu'on n'oublie jamais. Moi aujourd'hui, et j'ai perdu beaucoup de poids, grâce au livre d'ailleurs, bon c'est encore un autre sujet, mais j'ai encore une hantise d'aller acheter un pantalon. Alors que maintenant il y a ma taille, il n'y avait pas ma taille à l'époque, ça m'a traumatisé pour ma vie. Voilà, c'est des choses tout bêtes, ça paraît idiot, mais ça façonne une personnalité. Et donc j'ai choisi l'obésité parce que je savais que je pouvais faire ce genre de scène. Mais après, ce roman parle surtout de la difficulté d'être différent et de la difficulté de s'accepter tel qu'on est, de se faire accepter tel qu'on est. C'est vraiment ça, j'aurais pu prendre autre chose comme sujet.
Mais ce qui est très réussi, moi, je trouve, dans le film, alors c'était sûrement le cas dans le livre aussi, c'est que c'est un battant quand même. Dans l'inconscient collectif, si on nous parle de quelqu'un qui est gros, qui est en surpoids, on va imaginer qu'il reste sur son canapé à bouffer des chips toute la journée. Sauf que lui, en fait, il a une vie assez normale. Il va à la piscine, il est dans un groupe de musique, il se bouge, il est tout le temps en mouvement. C'est pas quelqu'un qui reste oisif chez lui, etc. Donc c'est ça, moi, je trouve qui est intéressant aussi, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on a des kilos en trop qu'on ne peut pas faire tout ce que les autres font.
Bien sûr, tout à fait. Et non, mais c'est très juste, c'est comme ça dans le roman, c'est encore plus mis en avant, je pense, grâce à la musique dans le film, et c'est vraiment très réussi. Benjamin est une personnalité généreuse, il le dit d'ailleurs dans la chanson finale, je suis gros, ça fait de la place dans mon cœur, je crois que c'est ça les paroles des paroliers de la musique, et c'est très juste. Et il est tout sauf une victime. Ce qu'envoie la société au gros, c'est tu es gros parce que tu manques de volonté. Voilà, donc le manque de volonté est très assimilé. La grossophobie, ça commence là, je crois. On est persuadé que c'est facile de mincir. Le médecin dans mon roman et dans le film le dit, ça se passe dans la tête. Et si Benjamin, qui a une démarche généreuse, il cuisine pour sa mère, ce que moi je faisais, ce que moi j'ai toujours cuisiné, mais si moi je me faisais en cachette des repas entre les repas, c'était pas de la gourmandise, c'était bien parce que je remplissais un vide. Donc ça n'a rien à voir avec la volonté. L'incapacité à certaines périodes de la vie à perdre du poids, elle vient du fait que d'autres problèmes beaucoup plus complexes ne sont pas résolus. Or, on dit toujours au gros, t'as qu'à arrêter de manger. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce livre, il parle de ça, ce film, il parle de ça. Et Benjamin, effectivement, vous avez raison, et c'est vraiment une des grandes qualités de ce personnage, c'est que c'est qu'il est actif, c'est qu'il est drôle, c'est qu'il est quand même populaire malgré les abrutis qui le harcèlent. Si on lui renvoyait pas au visage son problème de poids, bah, il va plutôt bien. Il est bien dans sa peau.
Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus de discussions et de débats autour du harcèlement à l'école, du fait d'être en surpoids. Par exemple, il y a ce terme de grossophobie qui est apparu. Vous, quel regard vous portez sur ces changements sociétaux? Vous qui allez à la rencontre encore de jeunes, de vos lecteurs, etc. Est-ce que vous trouvez que la société, elle est davantage bienveillante aujourd'hui à l'égard de ces problématiques? Est-ce que vous trouvez que ça évolue en bien, en gros?
C'est délicat parce que à la fois il y a un discours de tolérance et de bienveillance qui est affiché partout. Voilà, on parle de la grossophobie, c'est un sujet, tout le monde dit que c'est mal. Et en même temps, je constate dans les rencontres que je fais avec les jeunes aujourd'hui, je crois que si j'avais 15 ans aujourd'hui et que j'étais comme j'étais dans les années 1980, quand j'avais 15 ans, je crois que je serais peut-être plus malheureux que je l'étais. Moi, je n'étais pas malheureux, mais c'était un souci d'être gros. Mais voilà, c'était de la moquerie, c'était... Aujourd'hui, ça peut aller très loin. Donc, curieusement, à une époque où on affiche beaucoup plus, où c'est devenu un sujet qu'il faut être tolérant avec les gros, avec d'autres différences, je crois que dans les faits, ce n'est pas réel. Et je crois que dans les faits, c'est encore plus difficile qu'avant. C'est le sentiment que j'ai, notamment des rencontres que je fais avec 20 ans de différence et quand je compare avec mon enfance. Mais le discours, il est là. Mais dans les faits, je ne suis pas sûr que ça soit réel.
Et ce décalage, vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est lié notamment peut-être aux réseaux sociaux, à Internet? C'est peut-être l'écho que vous avez eu
C'est l'impression que j'ai. Alors après, je me méfie de mes impressions parce que j'ai 56 ans. Et donc, je suis né dans un monde où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours difficile d'être très objectif quand c'est quelque chose qui est arrivé après soi et du monde de maintenant. Mais quand même, moi, si on se moquait de moi à l'école, quand je rentrais chez moi, où j'étais une famille bienveillante, on mangeait trop, mais elle était bienveillante, je laissais ces soucis-là derrière moi. Alors que je vois bien que des jeunes aujourd'hui sont harcelés jusqu'à très tard dans la nuit sur les réseaux sociaux. Donc je pense que oui, bien sûr, Internet et les réseaux sociaux jouent, c'est certain. Et en même temps, c'est très particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre ce que revendiquent les jeunes aujourd'hui, où ils sont, je pense, au fond plus tolérants qu'on l'était à mon époque, sur plein de sujets, hein, pas que les gros, et en même temps, dans les faits, dans les actes, je ne sens pas cette tolérance-là. C'est très particulier, mais bon, c'est une observation d'extérieur et peut-être pas très juste. Hein.
On est ici dans un festival de cinéma. J'aimerais savoir un peu quelle est votre relation avec le cinéma. C'est quoi le cinéma dans votre vie?
Ah, moi, j'ai une relation complètement passionnelle avec le cinéma. Le cinéma est ma grande passion. Même avant la littérature, c'est-à-dire moi, quand j'étais jeune, alors j'écris un livre qui parle de ça, qui s'appelle « Celui qui n'aimait pas lire ». Moi, je ne lisais pas quand j'étais jeune. Donc, ce livre raconte le parcours d'un enfant, un adolescent qui ne lisait pas et comment il est devenu passionné de littérature et romancier. Mais moi, ma grande passion, c'était le cinéma. Moi, quand j'avais 13, 14 ans, 15 ans, j'allais beaucoup au cinéma et je me souviens d'un festival où on avait ressorti en version masterisée des films d'Hitchcock. Et à la sortie de Vertigo, je suis resté dans la salle très longtemps et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. C'était très flou, ça. En fait, c'était raconter des histoires. Le cinéma, c'est ma deuxième maison. C'est même plus que ma deuxième maison. C'est l'endroit où, quand j'étais jeune, c'était un refuge. C'était l'endroit où je me sentais le mieux au monde. Et toute ma vie, j'ai été énormément au cinéma. Aujourd'hui, je vais au cinéma 3-4 fois par semaine. Le mercredi, je fais ma liste de films que je veux voir. C'est ma grande passion. Donc, je suis très heureux d'être dans ce festival ici parce que ça lie mon travail d'auteur pour la jeunesse et ma passion de cinéphile. Les deux se relient. Et je suis très heureux de pouvoir voir des films ici et de faire partie de ce jury. Voilà, le cinéma, c'est la grande passion de ma vie. Et j'ai écrit sur le cinéma dans mon dernier roman pour la jeunesse qui s'appelle « Premier rôle ». Il y a un personnage de grand-mère cinéphile, c'est exactement moi, j'ai mis toute ma cinéphilie dedans, donc voilà. Donc je suis très heureux d'être là, parce que j'ai deux passions dans la vie, ce sont les livres et les films, mais je peux dire que je pense que les films passent encore avant, voilà, je suis un fou de cinéma.
Le point commun entre la littérature et le cinéma, c'est raconter, partager des histoires. Mmh. Est-ce que vous qui êtes écrivain et plus, est-ce que vous croyez au pouvoir transformateur? Des récits qui paraissent être des fictions, mais qui au final peuvent avoir une portée beaucoup plus grande dans la société.
Ah ouais, j'y crois absolument. Moi, je sais que je ne serais pas l'homme que je suis sans les livres et sans les films. Les films et les livres m'ont appris le monde, m'ont appris la vie, m'ont appris à être plus ouvert, à comprendre des gens que je n'aurais pas compris sans ça. Enfin, ça ouvre mes horizons, ça l'a toujours fait, ça m'éduque. J'y vais pour le plaisir. J'y vais pour pleurer, j'y vais pour rire, j'y vais pour voir des comédiens que j'admire, comme je lis des livres pour l'émotion qu'ils me procurent. Mais au-delà de ça, Moi, il m'enseigne le monde, mais depuis toujours, j'en suis certain. Je suis sûr d'avoir beaucoup plus appris au cinéma qu'à l'école, quand j'avais 15 ans et que je séchais les cours pour aller au cinéma. Et aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans film et pas vivre sans livre, parce qu'ils m'accompagnent et qu'ils me permettent de comprendre ce que je vois. Et moi, je crois que j'essaye dans mes livres de partager le peu que je comprends du monde. C'est vraiment ce partage qui compte pour moi dans la littérature et dans les films en tant que lecteur, en tant qu'auteur.
Comment on passe d'un livre à un scénario ?
Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu très précisément à cette question. C'est deux métiers qui sont très proches, puisqu'on invente une histoire, on invente des personnages, mais il y en a un qui est très solitaire et il y en a un où on rencontre beaucoup de monde et beaucoup de sollicitations et les projets naissent de rencontres, les projets naissent d'un réalisateur, un producteur. Donc mon imagination, mon travail de création d'histoire, de comment les idées me viennent, elles viennent assez différemment quand c'est pour les films, parce que c'est souvent pour le partage avec quelqu'un, avec le partage d'un projet. Quand je veux écrire un roman, c'est quelque chose que je garde en moi longtemps. Les histoires, je les garde en moi jusqu'à temps qu'elles soient prêtes à être écrites. Alors que quand j'ai une idée de scénario, je la partage assez vite, soit avec un co-scénariste, soit avec un réalisateur, soit avec un producteur. Mais beaucoup de mes histoires que j'ai écrites pour la télévision, par exemple, j'aurais pu en faire des romans et vice-versa. Alors j'ai eu beaucoup de romans adaptés, mais quand je les ai écrits, c'était purement un roman. Et puis après, un regard extérieur, un producteur, un réalisateur m'a donné l'envie d'en faire un scénario. Mais au départ, quand j'ai écrit un roman, je sais que c'est un roman, ce n'est qu'un roman. Et là, je fais de la littérature. Donc avec une intimité, je vais dire, dans l'écriture qui est un peu différente de l'écriture du scénario. Notamment parce que chaque mot que j'écris dans un roman, il va être lu par les lecteurs. Donc mon langage, ma langue est le tout de mon livre. Alors que quand j'écris un scénario va être un outil pour qu'une équipe fasse un film, pour qu'un comédien dise les mots que j'ai écrits, pour qu'un réalisateur le mette en image, ou moi je le mette en image. J'ai réalisé récemment mon premier court-métrage, donc j'ai découvert ce qu'est d'écrire un scénario qu'on réalise soi-même, mais c'est pas pareil. L'écriture elle-même, j'y mets, je pense, beaucoup plus d'intimité quand j'écris un roman que quand j'écris un scénario.
On pourrait dire de vous que vous êtes un peu un touche-à-tout.
Oui, je suis un peu un touche-à-tout et j'aime cette diversité-là. Je crois que surtout, je suis un raconteur d'histoires. Voilà. Moi, j'ai besoin de raconter des histoires. J'ai besoin qu'on m'en raconte, donc je lis beaucoup. Je vais beaucoup au cinéma et moi, j'ai besoin d'en raconter. Je crois que parce que, tout bêtement, la vie ne me suffit pas.
Vous qui entretenez un rapport et un lien avec la jeunesse, moi, je me demandais, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le Pass Culture qui a été instauré en France. Donc, en gros, c'est donner un peu une enveloppe d'argent à des jeunes pour qu'ils puissent ensuite les dépenser dans des activités culturelles ou acheter des livres, etc. Et justement, dans ce rapport, l'État déplorait que les jeunes se ruaient davantage sur les mangas que sur aller au théâtre ou acheter des romans, etc. Vous qui êtes écrivain, quel regard vous portez sur cette habitude de consommation? Est-ce que vous pensez que c'est un problème ou que ça l'est pas véritablement? C'est juste qu'on est peut-être un peu alarmiste. Et est-ce que justement il faudrait faire une sorte d'éducation au livre pour les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un manque de communication sur les romans, sur la littérature en général? Quel regard vous portez sur ça?
Franchement, je vois pas de problème à ce que les jeunes lisent des mangas. Moi, je me rappelle que quand j'avais 15 ans, la BD était regardée de travers. En tout cas, c'est une activité pour les enfants. La BD, maintenant, est aussi noble et reconnue comme aussi noble que la littérature. Il y a des chefs-d'œuvre en BD et il y a des chefs-d'œuvre en manga. Et il y en a des moins bien que d'autres. Il y a des séries très populaires. Bon, mais en même temps, je ne peux pas juger, je ne les connais pas forcément. Moi, j'ai lu des mangas qui me plaisent à mon âge. Je vois aucun problème. Qu'un jeune aille acheter un manga plutôt que d'aller au théâtre, c'est pas un problème en soi. Après, certainement, il faut rendre le théâtre plus accessible. Il faut leur faire comprendre qu'ils vont passer du bon moment, comme au cinéma, comme en littérature. Mais ce pass culturel est précieux. Je vois dans le monde culturel que je fréquente, parce qu'on m'invite à des projections, que c'est de plus en plus difficile. Parce que moi, j'ai eu quelques séances, notamment de promotion de La Vie en Gros, qui ont sauté parce que des classes n'avaient plus le pass culturel et n'y sont pas allées. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là, plutôt que d'aller voir un film, rencontrer un auteur? Ça leur aurait certainement donné envie, peut-être d'acheter autre chose que des mangas. Mon livre ou un autre, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je pense que c'est dramatique de vouloir supprimer toutes ces aides à l'incitation à la culture, quelle qu'elle soit, qu'elle soit du manga, du théâtre, de la littérature, elles sont précieuses et il faut les conserver. J'avoue une certaine inquiétude que partage le monde culturel que je fréquente régulièrement sur l'avenir de la politique culturelle dans notre pays et dans beaucoup de pays, malheureusement.
Vous êtes pessimiste en général ou optimiste ?
Je suis plutôt optimiste. J'avoue qu'actuellement, le monde rend l'optimisme difficile. Je suis assez éberlué, comme tout le monde, de ce que devient le monde. Je crois que le monde a été dur et terrible depuis toujours, hein, mais là, il y a des choses qui se passent que j'ai du mal à comprendre. Alors, je me dis des fois que c'est peut-être mon grand âge qui fait ça, mais j'ai quand même tendance à être optimiste, et je pense qu'il y aura toujours des livres, des films, des gens pour aller les voir, et des enfants pour aller les voir et pour aller les acheter. Je pense qu'il y en aura toujours, et je veux croire à ça.
Ça peut être le mot de la fin.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir, merci.